les souplesses d'une nuée d'oiseaux. Elle est là, c'est encore et toujours maintenant. Il est 22 heures lorsqu'elle descend dans le métro. Sur le quai, elle marche vers un cercle bruyant d'adolescents, attirés par leur sombre effervescence. Au milieu de l'ennui de la station, ils se serrent les uns contre les autres et ne semblent disposés à bouger qu'en formation, jaloux de leur complicité. La tête penchée avec méfiance, ils sont pourtant animés d'une lâche bousculade permanente, grouillant de bourrades et d'insultes. Tour à tour, ils jettent un coup d'œil dans sa direction, plus soucieux de leur entourage qu'ils ne le laissent paraître. Leurs vêtements flottants, leurs vastes blousons à capuche et leurs jeans démesurés, dont la fourche pend entre les genoux et dont les jambes coulent d'abondance au sol, étendent en tous sens leur silhouette et les défont comme des ombres. Mais Ariel ne voit là que fausse mollesse, que prétention de laisser aller ou de dédain. À preuve, le tranchant de leurs regards parfois, la réticence ou le défi concentré dans leur visage tout frais qui respire encore l'enfance. Un instant distrait, peut-être par ses fringues noires étriquées sur ses hautes jambes, par la blancheur de sa taille un peu épaisse et à peine dénudée, éclaire de chair trouée d'un nombril creux, ils doivent la juger beaucoup trop vieille pour eux, même si leur curiosité ne s'éteint pas du même coup. Elle s'arrête aussi près d'eux qu'elle le peut, sans les gêner, pour se frotter au désordre de leur voix qui claque fort, voix trop grosse qui doivent toujours les surprendre eux-mêmes, aussi disproportionnées que ces pieds énormes sous leur corps. « La voix, songe-t-elle, ici bourgeon de l'enfance et présage de la virilité, là fontaine jaillissante au goût de terre ou de grand fond, là encore vin qui fermente. » Car l'attente dans le métro lui fait cela, l'incite à chercher des images qui n'ont rien à voir et qui la ramènent à elle-même. Sans prévenir, ces images ouvrent la réalité comme par effraction, petite porte battante sur ses sens. Pendant un brusque silence plus lourd et immobile qu'un complot flagrant, les garçons lui rappellent les joueurs de basket qui, au début et à la fin des matchs, se prennent par la taille pour se recueillir en rond, géant qui prie le dieu des tirs au panier et du dribble, de la vélocité. Sans s'inquiéter ni se croire visé, Ariel imagine les garçons, prêts à se disperser pour mettre à exécution une manigance, un plan un peu bête qui les fera rigoler plus tard, lorsqu'elle entend le roulement du train. Après avoir emprunté la même portière que les adolescents, qui se sont jetés en vrac sur les deux longues banquettes opposées, elle s'assoit parmi eux au lieu de s'éloigner par respect pour leur bande. Ariel les contemple à loisir d'un air neutre, passagère normale du métro. Tandis qu'elle écoute leurs échanges de traits d'esprit, sans s'en cacher, incapable de résister bien longtemps à leurs irrévérences et d'aplanir son visage tiraillé de sourires, ils se mettent à s'adresser indirectement à elle aussi, dont ils guettent les plaisirs discrets. Ils doivent tous se connaître et s'entendre à demi-mot, tournoyer dans la ville avec les souplesses d'une nuée d'oiseaux, se dit Ariel. D'ailleurs, elle commence à leur trouver des manières affables, des soucis de gamins bien élevés et éduqués, une modération de rebelles sans vraie peur, même lorsqu'ils parlent de couteaux et de zip-gun. Peut-être savent-ils ce qu'est la terreur. Peut-être ont-ils l'habitude des regards froids de rage qui réduisent la vie à rien. Mais en ce moment, ils miment tout juste les manières des banlieues difficiles, sinon, plus immédiatement, des ghettos noirs. Ils se démarquent sans se croire en danger. Se piquant de nonchalance, ils se lèvent d'un bloc à la toute dernière minute quand coulissent les portières, comme si le plus lymphatique allait récolter des lauriers. Il s'élance hors de la voiture, dans un chahut forcé, au cri désordonné de « OK, les gars !» Et certains prennent même le temps d'agripper une colonne pour voltiger autour, avant d'atterrir sur le quai. Tandis que la rame repart, Ariel se rassoit au bout de sa banquette vide. Au même moment, elle s'étonne d'apercevoir un garçon qui n'est pas sorti avec les autres, plus jeune sûrement de quelques années, les cheveux hirsutes à force d'être ratissés de la main, le front fatigué. Assis de travers, un genou replié et une basket posée sur le siège, lacets défaits et pendillants, il fixe le flou vertigineux du tunnel d'un regard gelé, à moins qu'il ne s'hypnotise sur les graffitis ciselés dans la vitre. Ariel croit d'abord qu'ils l'ont oublié là, puis elle se convainc qu'il n'était pas des leurs. Avec son blouson de cuir d'homme qui lui fait une molle armure, aux larges poignets retroussés sur les jointures des doigts, son t-shirt d'un rouge délavé au col qui bâille, son collier fait de simples nœuds dans un cordon et son air écœuré d'être en trop, il voyage en solitaire. Seule avec lui, Ariel se sent assez à l'aise pour retirer l'une de ses bottes qui brûle ses pieds sans chaussettes. Ce garçon, trop petit pour traîner si tard dans le métro, aux yeux bouffis comme bordés de coussinets d'eau bleue, lui fait l'effet d'un de ces enfants trop tôt aguerris et trop pénétrants, qui manque d'inexpérience. À la première correspondance à l'ouest, où se croisent trois lignes, la rame tarde à redémarrer. Lorsque les portières commencent à se refermer, un sursaut de panique soulève l'enfant qui se précipite pour en entraver le mécanisme avec une énergie sombre et butée. Déterminé à ne pas manquer son arrêt, il s'arrache à la morsure coulissante des portes qui finissent par relâcher tout à fait leur prise sur lui, puis qui restent ouvertes encore un moment. C'est alors qu'Ariel s'aperçoit qu'il a laissé quelque chose derrière lui, un fourre-tout bariolé ou un sac à dos d'écolier couvert d'autocollants. Elle n'a pas le temps de bien voir que déjà elle lui crie d'attendre et se jette sur l'objet informe qui ne pèse presque rien et semble vide. Ariel se rue vers la sortie. Elle s'apprête à courir après l'enfant pour lui remettre son sac lorsqu'elle se rend compte qu'elle n'a plus qu'une chaussure au pied. « Attends, tu as oublié quelque chose », lance-t-elle en retournant chercher sa botte, énervée par la nécessité d'agir vite. Pendant ce temps, les portes chuintent et se joignent dans un choc sourd, si bien qu'Ariel se heurte à leur vitre, avec sa chaussure et ses achats au bout d'une main, et le sac froid contre la poitrine. L'instant d'avant, elle a vu le garçon sauter l'un des tourniquets pour quitter la station, agile malgré sa courte taille, habitué peut-être à les enjamber pour entrer sans payer, à présent, elle ne peut deviner par où il a disparu.